Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble effectivement pour deux heures d'actu jusqu'à 20h. À mes côtés, Marion Calais. Bonsoir Marion.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et à la une, la sale guerre. Ambulances et hôpitaux pris pour cible en Ukraine. Explosion désormais de mines antipersonnelles. Évacuation en catastrophe de civils. Corridors humanitaires non sécurisés. Dès le début de ce journal, nous allons rejoindre nos envoyés spéciaux sur place. Ils ont recueilli des témoignages absolument effarants. Et puis à 18h15, notre invitée sera Yulia Sidaya. C'est la directrice des hôpitaux de la moitié nord du pays. Elle accuse les Russes de viser ces établissements et elle va nous raconter les patients cachés dans les sous-sols et les accouchements dans des abris anti-bombes.
Dans ce journal aussi, ces nouvelles accusations américaines, ces nouvelles sanctions américaines contre la Russie, embargo sur le gaz et le pétrole russe décrété par Washington. Des accusations d'agression sexuelle à l'encontre d'Éric Zemmour. Et puis jouera pas. Interrogation toujours pour Kylian Mbappé, le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid demain.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL en Corse. Nouvelle manifestation tendue aujourd'hui après la mort d'Ivan, après l'agression d'Ivan Colonna. 18h40, on va défaire le monde. Les 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signy et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Ce soir, vous comprendrez pourquoi votre facture énergétique n'est pas prête de baisser. Entente sur les prix, limites technologiques et diplomatiques. Produire plus pour payer moins, c'est pas pour demain. Au menu également, la parité mise à mal au gouvernement et un Airbnb solidaire pour les réfugiés ukrainiens.
À 19h15, on va refaire le monde, bien entendu, autour d'Éric Brunet et puis des points très réguliers sur la météo avec vous, Peggy Broche. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Ça va ressembler à quoi demain?
Demain, le soleil résistera dans l'est et sera de retour dans le sud-ouest.
On détaille tout ça dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
La guerre, jour 13 en Ukraine, et même les ambulances désormais sont des cibles.
Y compris lorsqu'elles empruntent les fameux couloirs humanitaires. Valentin Boisset, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine. Vous vous êtes rendu à l'hôpital de Drohobych dans l'ouest du pays, qui a accueilli ces dernières heures des militaires blessés au front et exfiltrés donc sous le feu russe.
Oui, 5 militaires blessés arrivés cette nuit ici dans des camions banalisés, réaménagés avec les moyens du bord, des draps sur les fenêtres. Pourquoi? Car les Russes tirent sur les ambulances ukrainiennes. Victor dirige l'hôpital.
J'espère vraiment que nous pourrons en soigner un maximum. Ceux-là viennent de Kharkiv, mais comme on doit les cacher sur la route, c'est très compliqué. Certains ont perdu un bras ou une jambe, ils ont besoin d'une ambulance médicalisée.
Les soldats arrivés ici ont emprunté in extremis les couloirs humanitaires alors que ceux-ci continuaient d'être pilonnés par les Russes, alors les exfiltrer en les camouflant. C'est le maire de Drohobych, Taras, militaire et surtout médecin de profession, qui y a pensé.
On ne comprend pas pourquoi ils tirent dans les ambulances. Ils le font du sol et du ciel. Exfiltrer les soldats blessés est en fait une activité très dangereuse. Mais ici, on veut vraiment les accueillir.
Blessés par des mines, les 5 soldats arrivés cette nuit s'en sortiront. Mais dans les prochaines heures, la ville tentera de nouvelles évacuations militaires.
Valentin Boisset à l'hôpital de Drohobych dans l'ouest de l'Ukraine pour RTL. Kiev aujourd'hui a d'ailleurs accusé Moscou d'avoir attaqué le couloir humanitaire de Mariupol.
Les autorités ukrainiennes qui assurent aussi que l'explosion d'une mine antipersonnelle a fait 3 morts, 3 blessés dans la région de Tcherniv, au nord du pays.
Des mines dont l'utilisation est interdite. 3 morts et 3 enfants blessés alors qu'ils étaient en voiture.
Plus à l'est, à Soumy, d'intenses bombardements ont fait 21 morts hier soir. Situation chaotique, comme l'a confié Ilia à Antoine Comte pour RTL.
C'est difficile parce que ils attaquent les gens civils avec les tanks, avec les machines de combat. C'est pas les gens qui attaquent. Ils utilisent les tanks, ils utilisent les avions et après ils commencent les attaques par les soldats. Il n'y a pas du temps pour réaliser vos émotions. Il n'y a pas de la place pour le peur. Avant la guerre, j'avais toujours peur de mourir, mais maintenant ça semble plus réel. Dans le premier jour, la plupart des gens, ils étaient très motivés, bien sûr, mais maintenant, quand la ville est bloquée, les magasins sont vides, il n'y a pas de provisions. Ça va pas finir bon pour aucune personne, cette guerre. Aidez-nous à détruire ce régime criminel.
Aidez-nous à détruire ce régime criminel. L'appel de cet habitant de Soumy sur RTL, le président Zelensky, lui dénonce les promesses non tenues des Occidentaux, notamment pour fournir des avions à l'Ukraine.
Oui, côté russe, un haut responsable du Pentagone estimait tout à l'heure que 2 à 4 000 soldats étaient morts en Ukraine depuis le début de l'invasion.
Les États-Unis, où le président Joe Biden vient de prendre la parole, Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York. Washington durcit un peu plus ses sanctions contre Moscou avec un embargo décrété sur le pétrole et le gaz russe.
Oui, elle décide d'y aller seule pour l'instant puisqu'il n'y a pas encore de consensus entre pays européens. L'Allemagne notamment reconnaît qu'elle peut difficilement s'en sortir sans pétrole et gaz russe, même si Joe Biden a précisé que cet embargo est décidé en coordination étroite avec ses alliés. Il n'a toutefois pas donné de détails sur l'application exacte de cette mesure. C'est allé vite ici. La semaine dernière, ce n'était pas à l'agenda du président, mais la violence de l'attaque russe a uni les démocrates et les républicains. Joe Biden a bien reconnu que cette mesure était plus facile pour les États-Unis, premier exportateur au monde de gaz. Ils importent seulement 8% de pétrole russe contre 30% en moyenne en Europe. Ça ne veut pas dire que l'Europe ne décidera pas d'un embargo à terme, mais il faut plus de temps. Pour terminer, il faut bien comprendre que cette décision n'est pas politiquement neutre pour Joe Biden. Les automobilistes américains sont et seront impactés. Le prix à la pompe a augmenté ici de 55 cents depuis la semaine dernière.
Et embargo qui a fait bondir immédiatement les cours du pétrole de 5%. Merci Lionel Gendron depuis les États-Unis. Le Royaume-Uni, de son côté, annonce aussi qu'il arrêtera les importations de pétrole russe, mais d'ici la fin de l'année.
L'invasion russe et ses conséquences parfois étonnantes. Michelin ne peut plus noircir ses pneus. Plus d'approvisionnement en noir de carbone venu de Russie. Le site de Cholet a donc dû fermer ces derniers jours. Reportage sur place pour RTL de Mathieu Lopineau.
Alors, pas de chômage partiel, les salariés sont en fait obligés de poser des jours de congé. 4 pour le moment, jusqu'au 14 mars prochain. Mohamed Laftoui de la CGT Michelin.
Quand tout va bien, c'est les actionnaires qui se gavent. Et quand ça va mal, c'est les salariés qui payent les pots cassés.
L'usine Michelin est en pénurie de noir de carbone qui sert à durcir et teindre les pneumatiques.
Michelin, comme il est toujours à la recherche du profit, il va acheter là où c'est le moins cher. 35% de noir de carbone qui vient de Russie, ça monte jusqu'à 75%. Il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui on est dans la mouise, quoi.
Les salariés demandaient à la direction d'éviter l'activité partielle qui concerne 1150 salariés à Cholet et plus largement 8 usines sur 12 en France.
Nous, on avait demandé à l'entreprise, comme il y a une très très bonne santé financière, qu'ils prennent en charge cette baisse d'activité, puis qu'ils en profitent pour former parce qu'il y a des retards en formation, du nettoyage, de la peinture. Alors pour l'instant, ils tapent sur les jours de repos. Ils parlent aussi de taper sur la 5e semaine et ça peut peut-être même aller plus loin. Tant que la guerre durera, ça risquerait de durer.
Les syndicats ont eu une réunion avec la direction le 16 mars prochain pour savoir si l'activité partielle est reconduite ou non.
Réunion donc après de nouveaux jours de fermeture programmés du 11 au 14 mars prochain. Reportage de Mathieu Lopineau.
Allez, votre journal va se poursuivre dans un instant dans RTL Soir avec ses accusations d'agression sexuelle contre Éric Zemmour. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
18h09, la suite de votre journal. Vous écoutez RTL avec ce gros caillou maintenant dans la chaussure d'Éric Zemmour.
À savoir son rapport aux femmes. Mediapart diffuse aujourd'hui 8 témoignages dont certains étaient déjà connus. Pas de plainte, mais des accusations de comportements inappropriés et d'agressions sexuelles, Thomas Després.
Oui, au moment des faits présumés, elles étaient jeunes journalistes, hôtesses d'accueil à ITL ou encore anciennes stagiaires au Figaro, des endroits qu'Éric Zemmour a fréquentés parce qu'il y travaillait. Vous l'avez dit, 8 femmes qui aujourd'hui témoignent contre lui. Elles rapportent des baisers forcés, des avances sexuelles ou encore du chantage.
Il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche.
Il me dit « vous allez me remercier autrement » et en fait là il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche.
Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là et il s'est servi.
Alors, les faits dénoncés s'étalent de 1999 à 2019. Certains sont donc très récents. Éric Zemmour a refusé de répondre à Mediapart. Selon nos informations, il n'y a pas de plainte qui a été déposée, ni pour agression sexuelle d'un côté, ni pour diffamation de l'autre. Son équipe jure seulement que tout est faux et dénonce, je cite, un procédé grossier à 5 semaines d'une élection.
Ce qui est nouveau, c'est que les témoignages ont lieu face caméra, Thomas. Et ces témoignages, ils ne vont pas améliorer l'image du candidat auprès de l'électorat féminin.
C'est le moins qu'on puisse dire. Un électorat d'ailleurs qui vote moins pour Éric Zemmour que le reste de la population, selon une enquête qui a été publiée cet après-midi chez IFOP. Seulement 11% des femmes envisagent de voter pour lui contre 14% chez les hommes. Pas sûr que cette nouvelle polémique l'aide à séduire cet électorat.
Et notez qu'en ce 8 mars, le candidat organise ce soir une soirée, les femmes avec Éric Zemmour.
Et Valérie Pécresse, de son côté, promet de faire de l'égalité femmes-hommes un fil rouge de son mandat si elle est élue. Emmanuel Macron, lui, dit croire à une Europe féministe. Il va bien, les mots rassurants ce soir de l'entraîneur du PSG concernant Kylian Mbappé, hein, touché au pied lors d'un entraînement hier avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Kylian Mbappé qui figure d'ailleurs dans le groupe. De son côté, Neymar, lui, espère être en forme après une blessure récente à la cheville.
J'ai été blessé plus longtemps que prévu cet hiver. La blessure a été dure, mais aujourd'hui je suis prêt physiquement et mentalement pour aider l'équipe. C'est un grand rendez-vous que j'avais forcément en tête durant toute cette période difficile où j'ai été blessé. Évidemment, ce sont des matchs que tout le monde veut jouer. Ce genre de match, il faut en profiter à chaque instant, chaque seconde, chaque minute. Je suis totalement concentré et motivé. Je suis surtout content, heureux d'être là. Je vais pouvoir tout donner demain pour mon équipe.
Tout donner, Neymar, pour confirmer après la victoire 1-0 à l'aller du PSG, ce Real Madrid-PSG qu'on suivra évidemment demain soir sur RTL.
Et on retournera à Madrid à 19h parce que normalement Kylian Mbappé aura foulé la pelouse du stade pour l'entraînement traditionnel à Bernabéu avant le match.
Et puis à Pékin, aux Jeux Paralympiques, la revanche de l'Ukraine, deuxième au tableau des médailles, deux podiums aujourd'hui, 100% ukrainien en biathlon.
Allez, on va s'intéresser au temps maintenant. Avec vous Marion, avant de faire un point complet avec Peggy Broche, jusqu'à moins 7 degrés ces trois dernières nuits dans la vallée du Rhône. Premier épisode de gel qui ne sera pas sans conséquence.
Et vous l'avez constaté pour RTL, Frédéric Perruche auprès de producteurs d'abricots à Moras en Valoire dans la Drôme. Pour eux, déjà c'est clair, la récolte sera en partie amputée.
Oui, ce sont près de 800 arbres, 800 abricotiers qui ont été touchés sur le domaine de Romainvallée, des variétés précoces comme la Médiabelle ou les Dicotes, dont les fleurs ont gelé.
Quand on les ouvre, on peut constater qu'à l'intérieur, le pistil est noir. Noir, c'est fini, la fleur va chuter, le fruit ne va pas tenir sur l'arbre.
Trois nuits de gel avec des températures comprises entre moins 5 et moins 7 degrés qui vont coûter cher à l'arboriculteur.
80% de pertes sur cette variété, donc la variété Médiabelle qui est récoltée normalement au mois de juin. Autour de 20 000 euros de pertes hectare actuellement sur des vergers précoces.
Et là, il y a un hectare et demi.
Un hectare et demi, donc ça fait environ 30 000 euros, quoi.
Même constat chez son voisin Hervé Miachon, qui s'inquiète de revivre un printemps noir comme l'an dernier.
Grosso modo, 90% de dégâts. C'est sûr que si on revit ça cette année, c'est foutu. On disparaîtra. Je dis qu'il n'y aura même plus de paillasson pour mettre la clé dessous. On a tellement reçu l'année passée que, on a peur. J'avoue qu'on a peur.
Heureusement, Météo France n'annonce pas de nouvelles vagues de gel dans les 15 jours qui viennent.
Voilà le nouveau coup dur pour ces arboriculteurs à Moras, en Valoire, avec Frédéric Perruche pour RTL.
Merci Marion. On va s'intéresser aux températures justement avec vous, Peggy. Frédéric, à l'instant, se montrait rassurant. Sur les 15 prochains jours, pas d'épisode de gel. Effectivement, ça remonte là dès demain.
Ça remonte dès demain, mais il y a encore des gelées, surtout dans le nord-est. Encore moins 5 degrés, ce qui fera une forte amplitude thermique par rapport à l'après-midi. Comme aujourd'hui, par exemple, il a fait moins 2 à Clermont-Ferrand, c'est remonté jusqu'à 17 l'après-midi.
Ah oui.
Donc l'amplitude est très forte. Demain, moins 5 degrés à Nancy, moins 4 à Dijon, moins 2 à Grenoble et Montélimar. On a encore quelques gelées, même si les températures remontent. Et c'est de la douceur qui revient sur le nord-ouest. Ailleurs, pour les maximales, là, ça remonte bien. Demain après-midi, on sera au-dessus des normales quasiment partout. Que des températures à deux chiffres, de 12 degrés à Brest, à 18 à Bordeaux, Biarritz, Perpignan, 15 degrés à Lyon, Toulon, Paris et Lille. Et leur côté ciel, demain, ce sera plus nuageux. Beaucoup de grisailles matinales entre le nord-ouest et la vallée de la Garonne. Ça restera couvert encore sur le Languedoc toute la journée avec quelques gouttes. Et puis le soleil brillera sur les Pyrénées et dans l'est le matin. Et puis dans l'après-midi, ces grisailles, elles vont se dissiper. Mais le ciel restera chargé entre la Normandie, les Pays de la Loire, en allant vers le Limousin. Et on a une nouvelle dégradation pluvieuse qui va arriver par la pointe bretonne uniquement. Et ensuite, évidemment, vous doutez bien que ces pluies vont gagner le reste du pays. Mais demain et dans le sud-ouest, ça restera lumineux comme sur la moitié est.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et avec la brigade RTL, nous nous interrogeons maintenant. Que se passe-t-il en Corse? Tension depuis l'agression d'Ivan Colonna, l'indépendantiste entre la vie et la mort, étranglé la semaine dernière par un co-détenu islamiste en prison. Depuis, manifestation en série, colère et une phrase qui interpelle celle du préfet hier soir. Non, l'État français n'est pas un assassin. Alors pourquoi une telle sortie? On va essayer de comprendre, on va poser deux questions à la brigade RTL. Bonsoir Étienne Baudu.
Bonsoir.
Vous êtes à Ajaccio pour RTL. Le préfet voulait calmer les manifestants. Visiblement, c'est raté parce qu'un nouveau défilé a dégénéré en ville aujourd'hui.
Oui, alors ça s'est enfin un peu calmé, même si pour l'instant les forces de l'ordre restent casquées. En réalité, le préfet répondait à la banderole qui depuis dimanche est brandie en tête des cortèges. C'était le cas à Corté et encore hier soir à Bastia, avec inscrit en Corse « État français assassin ». Alors ce matin, elle a même été accrochée aux grilles de la préfecture. Et puis très vite, la manifestation a dérapé. Des jeunes ont délibérément jeté sur les forces de l'ordre des cailloux, des bouteilles en verre, des bombes agricoles et même quelques cocktails molotov. Des violences auxquelles ont répondu les CRS par des grenades lacrymogènes et des bombes de désencerclement, et même avec des tirs de LBD. D'ailleurs, une de ces balles a blessé au cou un jeune collégien. Antoine, à 16 ans, il justifie ces débordements qui étaient selon lui inévitables.
On demande des explications sur ce qui s'est passé et comment ça en a pu arriver là en fait. Et nous, on essaye de manifester et faire passer un message et au final, on se retrouve à prendre des flashballs et des lacrymos dans la tronche. Quoi. Aujourd'hui, notre jeunesse, on est très peu à être intéressé par la politique et je pense que ce qui s'est passé là, ça a fait qu'on est tous unis aujourd'hui et on montre que ben, la Corse, elle est là et que les jeunes aussi et qu'il faut, il faut défendre notre territoire parce qu'on n'est pas accepté comme on est.
Alors c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de tels débordements en Corse. Est-ce la relève ou bien une réaction épidermique? C'est toute la question.
Étienne, les autonomistes qui tiennent la région n'excusent pas les débordements, mais ils les comprennent en quelque sorte?
Oui, oui. Par exemple, Romain Colonna, il est conseiller territorial au sein de la majorité nationaliste.
C'est un sentiment profond d'injustice qui traverse la jeunesse insulaire aujourd'hui. Et il faut absolument que les pouvoirs publics, et notamment ceux du côté de l'État, l'entendent. Et cette jeunesse exige simplement de la justice et de la vérité pour Ivan Colonna, pour sa famille et au-delà pour l'ensemble du peuple corse. Ça s'inscrit dans un mouvement général de contestation, d'indignation, un mouvement profond qui traverse l'ensemble de la société corse.
Alors l'affaire Ivan Colonna est sans doute l'étincelle qui a ravivé un feu qui couvait. Certains ici craignent un retour en arrière, une image de violence que Lille avait pourtant depuis un certain temps réussi à faire oublier. Et nombreux aussi sont nombreux aussi ici à demander en fait la reprise du dialogue.
Les explications de la brigade RTL, Étienne Baudu à Ajaccio encore ce soir. On va marquer une courte pause dans RTL Soir et ensuite nous allons rejoindre notre invitée en Ukraine, Yulia Sidaya. Elle dirige tous les hôpitaux du nord du pays. Elle accuse les Russes de viser ces établissements et elle a dû cacher les patients dans les sous-sols. Vous allez l'entendre tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée et RTL Soir encore une fois au plus près de l'actualité. Nous partons maintenant en Ukraine, nous allons nous intéresser au sort des civils, au sort des enfants victimes innocentes de cette guerre. Nous allons rejoindre notre invité. Bonsoir Yulia Sidaya.
Good evening.
Vous êtes la directrice de tous les hôpitaux de la moitié nord de l'Ukraine, les hôpitaux notamment de la capitale Kiev. Vous nous confirmez ces bombardements, on en parlait dans le journal de 18h, à proximité de vos établissements, les tirs sur les ambulances?
Yes, absolutely. There are a lot of hospitals for adults, children hospitals.
Bien sûr, il y a eu des hôpitaux pour enfants, pour adultes, des ambulances bombardées. On a beaucoup de patients souffrant de cancer, de diabète, des patients qui ont besoin de dialyse, des patients covidés qui ont besoin de respirateurs. Et nous ne pouvons plus les soigner. Voilà, je peux vous confirmer qu'il y a, oui, absolument des raids autour de nos hôpitaux.
Ces bombardements, ils ont provoqué des dégâts dans vos hôpitaux concrètement? Vous avez été touché?
Oui, ils ont touché directement des hôpitaux, comme d'autres établissements civils, comme des immeubles, des théâtres, des églises, des orphelinats, entre autres.
Comment vous vous organisez, vous vous réorganisez? Vous mettez à l'abri les patients dans les sous-sols?
Oui, c'est ça, dans les sous-sols. Et nous avons beaucoup de volontaires pour les évacuer également vers d'autres villes.
mobilize them to another city.
Est-ce que vous commencez à manquer de médicaments, à manquer de nourriture?
Dans des hôpitaux du sud et de l'est, c'est une catastrophe humanitaire. Ils ne peuvent plus accéder aux médicaments. On essaye d'organiser l'envoi d'aide pour les villes de Mélitopol ou Tchernigiv.
Vous parliez de sous-sol un petit peu plus tôt. La maternité de Kharkiv, la deuxième ville du pays, a été officiellement déplacée dans un abri anti-bombe, c'est bien ça ?
Pas seulement à Kharkiv, mais aussi à Kiev, à Chernikiv. Il y a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes mamans qui sont dans des abris anti-bombes. Et elles doivent donner la vie dans ces abris.
Un petit peu plus tôt, vous faisiez référence, Yulia Sidaya, aux hôpitaux pour les enfants. Certains jeunes patients souffrant de cancer ayant besoin de greffe ont pu être évacués.
Oui, certains d'entre eux ont été emmenés par des volontaires à l'ouest de l'Ukraine, en Pologne et en Allemagne aussi.
Sur les réseaux sociaux, dans ces hôpitaux, on a pu voir des images poignantes de fêtes de naissance, de fêtes d'anniversaire organisées pour des mamans, pour des enfants dans ces sous-sols, donc aujourd'hui, dans ces abris.
Vous savez, même dans cette tragédie, dans cette situation de guerre, nous devons laisser à nos enfants le droit au bonheur. Et les docteurs ont l'énergie, l'envie d'organiser de telles fêtes d'anniversaire. C'est aussi une façon de lutter contre le mal. C'est une façon aussi de supporter ces femmes qui doivent donner naissance dans des abris anti-bombes. C'est une façon de montrer au monde que nous ne nous rendons pas, que nous restons vivants malgré cette tragédie.
Les docteurs font un boulot absolument formidable, non ?
All doctors are in their job places and they help to our Ukrainians.
Tous les docteurs sont fidèles à leur poste. Ils s'occupent de la population ukrainienne. Nous n'avons pas d'exemple de docteurs qui auraient laissé leurs patients. Et puis nous avons beaucoup de docteurs étrangers qui viennent ici nous aider. Et d'ailleurs, nous avons aussi beaucoup de chirurgiens de différentes spécialités qui nous aident par Internet. Nous avons une liste de plus d'un millier de praticiens prêts à nous aider en étant connectés en ligne.
Yulia Sidaya, dites-nous, de quoi l'Ukraine a besoin aujourd'hui, de notre part, de l'Europe de l'Ouest ?
Aujourd'hui, nous sommes en lutte. Jusqu'à présent, les forces russes maintiennent leur supériorité dans les airs et peuvent envoyer des roquettes. Ils utilisent des bombes à sous-munitions, des bombes interdites par les conventions internationales. Nous ne demandons pas qu'on vienne combattre pour nous, mais nous demandons la fermeture de l'espace aérien, la fermeture du ciel au-dessus de nos têtes. Je demande à tous les Français qui nous écoutent de mettre la pression sur leur gouvernement et de penser à ce qui pourrait à leur tour leur arriver demain.
Merci Yulia Sidaya, merci d'avoir été avec nous vraiment ce soir sur RTL, vous la directrice de tous les hôpitaux de la moitié nord de l'Ukraine en guerre. Merci pour votre témoignage sur RTL.
Thank you so much. Bye bye.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Alors, remarquez, une petite pause dans RTL Soir et ensuite on va se retrouver pour vos dessous de l'actu. On va s'intéresser notamment à l'accueil des réfugiés ukrainiens, avec beaucoup de réfugiés accueillis notamment chez l'habitant, vous l'entendrez. Et puis laissez-vous tenter dernière, on a bien besoin de s'évader, on va aller faire un petit tour sur l'île de Beauté avec Didier Bourdon pour une comédie qui s'amuse des clichés. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir
avec Julien Cellier.
RTL.
Bonne fin de journée, 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
On vous rappelle maintenant dans RTL Soir les grands titres de l'actualité. C'est avec vous Marion Calais.
Nouvelle sanction américaine au 13e jour de la guerre en Ukraine. Les États-Unis décrètent ce soir un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russe. En Ukraine, des milliers de civils continuent de fuir les villes bombardées au total. Selon l'ONU, 2 millions de personnes ont fui le pays depuis le 24 février dernier. Et puis ces contrôles renforcés annoncés par le gouvernement dans les EHPAD. Les 7500 établissements en France seront inspectés d'ici 2 ans.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps pour demain, la tendance.
Du soleil dans l'est du pays et dans le sud-ouest, plus nuageux ailleurs et des températures en hausse.
Merci Peggy.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu, maintenant les dessous de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Marion citait ce chiffre à l'instant. 2 millions de personnes ont fui le pays en guerre sur ces 10 derniers jours. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Forte accélération d'ailleurs du nombre d'arrivées ici dans notre pays ces dernières heures.
Absolument, pour vous donner une idée, une dizaine d'Ukrainiens arrivaient quotidiennement en France au début du conflit. Pour la seule journée d'hier, les autorités ont dénombré pas moins de 500 personnes arrivant en Ukraine, accélération notable des arrivées donc.
Et quel profil de ces exilés ?
Alors ce sont essentiellement des femmes et des enfants, une plus petite proportion d'hommes, 70% environ sont de nationalité ukrainienne, 30% sont résidents d'Ukraine mais originaire d'autres pays.
Ces Ukrainiens, ces résidents aussi d'Ukraine, est-ce qu'ils comptent rester en France, y trouver refuge à un moment ?
Alors clairement, ils ne se projettent pas à long terme ici. Sur les 5000 personnes arrivées en France depuis le début du conflit, l'essentiel transite en réalité par notre territoire pour accéder à des pays d'Europe du Sud, l'Espagne ou l'Italie, où les communautés ukrainiennes sont bien plus importantes, autant de proches et de contacts qui facilitent une installation dans ces pays. Preuve aussi qu'ils ne comptent a priori pas rester. Les demandes d'asile sont finalement assez peu nombreuses. D'ailleurs, les pays européens proposent à compter d'aujourd'hui un statut spécifique, une protection temporaire valable pour 6 mois, plus rapide à obtenir et qui offre les mêmes droits que l'asile, travail, allocation, soins médicaux, logement. Cette protection est toutefois renouvelable jusqu'à 3 ans.
Ces réfugiés, ils sont hébergés où pour l'instant ?
Alors 1500 étaient dans des structures d'hébergement en France hier soir. La grande majorité, 1200 en région parisienne. Des hôtels, les mêmes que ceux qui ont été ouverts aux Afghans l'été dernier, ont été réquisitionnés. Au total, 10 000 places d'hébergement sont disponibles aujourd'hui en France et plus de la moitié sont proposées par des particuliers.
Les dessous de l'accueil des réfugiés ukrainiens dans notre pays avec Alice Moreno. Merci Alice.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Il est 18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, c'est la petite respiration et on en a tant besoin avec cette actualité tourmentée et chargée. Laissez-vous tenter dernière tous les soirs les bons conseils de la bande de LVT pour s'évader. On va parler cinéma ce soir avec Stéphane Boutsock qui est avec nous. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et on va rire, ça aussi ça va nous faire du bien. Vous nous emmenez en Corse avec une comédie. Permis de construire.
Dans laquelle Didier Bourdon incarne un dentiste parisien dont le papa vient de mourir et qui découvre que son défunt paternel, dont il s'était, faut le dire, un petit peu éloigné, lui a légué un terrain sur l'île de Beauté. Alors question, pourquoi pas s'y faire bâtir une maison ? Il arrive sur place et c'est là où ça se gâte. Extrait.
Et qu'est-ce que vous avez là ? Parce qu'on a une petite faim.
Cette heure-ci, il n'y a que des sandwichs.
Ah ben, c'est parfait. Hein, parfait.
Alors, vous avez le Corse. Pain, beurre, charcuterie et cornichons. Et vous avez le touriste. Pain, beurre, charcuterie et cornichons.
Ben, c'est les mêmes.
Sauf que le Corse est à 10 euros et le touriste à 15. C'est exactement les mêmes. La différence, c'est le prix.
Ben, comme on n'est pas bête, on va prendre 2 Corses.
Ouais, mais j'ai plus que des touristes.
C'est excellent. Alors, cette comédie, elle a quand même une spécificité, Stéphane, c'est qu'elle est réalisée par un Corse et pas n'importe lequel.
Eric Fraticelli, acteur, on l'a souvent vu dans des drames d'ailleurs, et donc désormais metteur en scène d'une comédie. Il a pu y aller franco sur les clins d'œil au fameux esprit corse, à l'accueil parfois un petit peu rugueux réservé aux continentaux, mais aussi rendre hommage, en connaisseur, aux merveilles de ces deux départements français de la Méditerranée. La Corse, une terre que Didier Bourdon connaît bien, lui aussi.
Oui, bah je la connais depuis très longtemps. Mon père avait un petit a priori comme le personnage, mon personnage. Et puis en fait, voilà, ils y sont allés 10 ans de suite ou 12 ans de suite, je crois. Donc je connaissais déjà la Corse un petit peu avant. Je connaissais un peu toutes les parties de la Corse, sauf celle où on a tourné, la Balagne, Calvi, l'île Rouge, je connaissais pas. J'ai connu très bien Bonifacio parce que j'avais des amis. Propriano, c'est là où on était, où allaient mes parents en vacances, Ajaccio. Le centre, un petit peu moins. Ah voilà, c'est l'île de Beauté, hein, on va pas dire le contraire, hein, c'est une île magnifique, en plus moi qui aime bien le poisson et les champignons, camille, les fruits de mer et le sanglier, je suis servi parce que la Corse, vraiment, c'est impeccable pour ça.
Didier Bourdon, ravi du séjour apparemment, mais aussi Anne Consigny et donc Eric Fraticelli à l'affiche de Permis de construire, réalisé par Eric Fraticelli. Vous verrez ça dès demain au cinéma.
Ça donne envie en tout cas, ces odeurs de maquis au cinéma. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on est très bien accueillis en Corse, surtout quand on est breton comme moi.
Ah, très bien.
Vous, Stéphane, le parisien, je ne sais pas. Les comédies, Stéphane, qui...
Moi, je suis ardennais à la base, donc ça se complique encore un petit peu.
Oui, c'est compliqué. Quand vous arrivez avec le 08 dans un village corse, je ne suis pas certain qu'on vous reconnaisse.
Le sanglier nous rapproche.
Le sanglier vous rapproche. Les comédies, Stéphane, qui dominent le box-office depuis le début de l'année chez nous.
Super héros malgré lui de Philippe Lachaud. Maison de retraite avec Kev Adams. C'est même Uncharted, qui est une comédie d'aventure américaine, cartonne. On est entre 1 800 000 et 1 350 000 entrées à ce jour. C'est sans doute pas l'actualité de ces derniers temps qui va inverser la tendance, mais ce que disent les spectateurs et ce que montrent ces films, c'est qu'il faut quand même que ça soit bien écrit, bien joué et bien filmé, et c'est le cas.
En général, c'est mieux. Donc on reparle cinéma demain matin avec vous, 6h20 dans Laissez-vous tenter, première avec Jérôme Florin et toute la joyeuse bande des petits matins, et puis 9h avec Yves Calvi dans Laissez-vous tenter. À demain.
À demain.
Laissez-vous tenter, dernière.
Très très courte pause et ensuite oui. RTL Soir va se poursuivre, on va défaire le monde, vous en avez l'habitude pendant 20 minutes jusqu'à 19h, vos 20 minutes d'actu. Autrement, Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier viennent s'asseoir à leur tour en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
On va s'intéresser au prix du baril de pétrole qui grimpe en flèche. Ce n'est qu'un début, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On va s'interroger.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir, Julien Cellier, Cyprien Sini.
18h40, on va défaire le monde maintenant. Vous écoutez RTL et on vous en remercie. Cyprien Sini, Céline Landreau, oui. Laurent Tessier, le trio magique pour 20 minutes d'actu. Autrement, on va regarder l'actualité avec un œil différent, vous en avez l'habitude. Quel est le menu, Cyprien, jusqu'à 19h?
Ce soir, on défait la facture énergétique. Pétrole hors de prix. Gaz russe intouchable. Et si pour faire baisser la note, il suffisait de produire plus ou de s'approvisionner ailleurs? On a essayé et vous verrez que c'est mal barré. Au menu également, un mini remaniement ministériel qui tombe très mal, des cargos qui font des ronds dans l'eau et un Airbnb au service des réfugiés ukrainiens. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
Le Brent a passé ces dernières heures le cap des $110 à 118.